Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des collectives, un collectif que j'ai déjà invité lors de la dernière journée internationale de la femme. C'est un ensemble de femmes qui sont concernées par le destin des femmes. Je vais laisser à Pascal Lévieux, qui est avec moi, le soin de préciser leur philosophie et dans quelle mission elles se sont investies. Pascal Lévieux, bonjour.
Bonjour, Louis.
Alors donc, vous êtes venu pour annoncer un événement et puis aussi pour nous aider à savoir qu'est-ce que les collectives, encore une fois.
Voilà. À la fois, vous annoncez un nouvel événement qui est un apéro femmes et qui sera le premier à 10. Et aussi, parler de notre présence tous les mercredis de 11h à 15h qui permet à toute femme qui souhaite nous rencontrer de venir. Tout simplement, il s'agit même pas d'une permanence de professionnel, mais d'un moment où nous retrouver autour d'un casse-croûte qu'on amène et d'échanger de façon conviviale.
Ouais. Alors, les collectives se sont regroupées il y a combien de temps et pourquoi faire en fait ?
Alors, les collectives, à l'origine, c'est des personnes qui voulaient intervenir en milieu scolaire et pour parler de l'égalité et de la tolérance en fait, pour favoriser le respect entre les genres, entre les garçons et les filles, déjà en milieu scolaire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de mettre en place quelque chose à 10. Au début, ça a été essentiellement des professionnels du centre de planification, de la mission locale, du centre médico-social, du centre d'information des femmes et des familles, qui, se rendant compte qu'il y avait ce besoin, ont commencé à s'activer depuis 2009, avec des bénévoles qui les ont rejoints, dont je fais partie. Et à partir de 2010, une structuration de ce collectif qui a fini par se donner le nom des collectives. Et la principale façon dont on pouvait nous voir actuellement, jusqu'à présent, c'était les deux événements annuels autour des journées internationales concernant les droits des femmes. La journée du 8 mars, qui est sur le droit des femmes. Maintenant, on dit le 8 mars, c'est toute l'année. Et la journée du 25 novembre concernant les violences faites aux femmes. Et pour la première fois, nous organisons un apéro femmes autour d'une lecture de livres et nous espérons bien recommencer régulièrement des apéros femmes.
Oui, vous m'avez dit toutes les structures avec lesquelles vous travaillez. Vous avez été un petit peu adoubé par Marie-Madeleine Kölsch qui travaille avec vous sur justement cette problématique de la violence faite aux femmes. Je ne vous ferai pas l'injure de dire qu'il n'y a plus de travail sur ce sujet.
Non, il y a toujours des situations de violence faites aux femmes. Alors on avait le procureur de la République qui avait dû nous donner des chiffres que je ne connais pas par cœur, mais dans le Diwa, nous avons toujours des situations de violence, plus particulièrement envers les femmes, parfois envers des hommes, hein, n'oublions pas ça. Marie-Madeleine Kölsch est donc en préfecture déléguée aux droits des femmes et à l'égalité et elle a choisi de soutenir notre action. Et elle est vraiment contente de voir que dans le Diwa, nous pouvons assurer cette présence et cette veille qui permet de rencontrer les femmes en dehors du milieu des professionnels sociaux et de détecter s'il manque des réponses et d'alerter. En fait, c'est vraiment le rôle que nous nous donnons et de permettre à des femmes de rencontrer des personnes qui n'ont pas l'étiquette de travailleur social.
Et alors, est-ce que ça fonctionne ? Il y a des gens qui viennent vous voir ?
Oui. Alors, ça fonctionne de deux façons. Grâce à ces événements que nous organisons, qui permettent de parler de nous, et c'est pourquoi nous vous remercions de cette interview, de ce deuxième interview, puisque nous avons des personnes qui nous ont connues grâce à votre dernière émission, dont une personne qui maintenant fait partie du collectif et de façon très active. Voilà. Donc ça, c'est déjà un moyen de nous faire voir. L'autre façon, nous nous sommes adossés sur les services de l'espace social qui nous met à disposition une salle sur réservation et Isabelle, qui est à l'accueil de l'espace social, nous alerte si elle sent des situations et nous amène à nous mettre en contact avec les personnes. Elle les incite à venir à notre moment de permanence.
Par contre, vous n'allez pas voir les gens comme ça de votre propre initiative. Si vous êtes non, vous attendez quand même que les gens viennent, je suppose.
Tout à fait. Alors, ce qui a pu arriver, par exemple récemment, c'est que à l'occasion d'une de nos rencontres, une personne qui était plus ou moins en difficulté nous soit présentée et que le premier contact se fasse avec son accord par téléphone, c'est-à-dire qu'elle donne son numéro de téléphone pour qu'on puisse rester en contact avec elle et établir un lien. Qui est de plus en plus établi d'ailleurs.
Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vous voir alors ?
Oui, il y a des gens qui viennent nous voir aux événements.
Mais pas forcément à la permanence ?
Pour l'instant, non. Tout simplement, c'est le but déjà de cet apéro femmes et de cette interview et des annonces qu'on met dans le journal, c'est de signaler que nous sommes présentes tous les mercredis, déjà jusqu'à la fin du mois de juillet, tous les mercredis de 11h à 15h à l'espace social. En général, quand il n'y a pas de travaux dans la salle ABC, et sinon on nous trouve une salle pour être présente avec la porte ouverte.
Et alors ce n'est pas redondant avec les services de professionnels, parce qu'il y a sans doute, je suppose, des services ad hoc traitant de ce genre de problématiques.
Oui, tout à fait. Qui sont alors les services ad hoc, qui sont le centre d'information des femmes et des familles, qui fait une permanence tous les 15 jours seulement, le vendredi, donc ça, c'est déjà pas beaucoup de temps consacré. Les assistantes sociales, missions locales.
Les médiateurs familiaux peut-être aussi.
La conseillère conjugale et familiale qui reçoit au centre de planification. La médiatrice familiale. Donc toutes ces personnes œuvrent mais assurent une présence très courte et c'est d'ailleurs au départ leur souci qui nous a fait créer le collectif de façon à justement travailler en lien avec elles, être nous, faire une sorte de transfert de compétences, non pas pour qu'on devienne des professionnels mais qu'on sache précisément ce qui se fait où et quand, et qu'on puisse aider les personnes à trouver leur chemin au milieu de ce dédale administratif. Voilà. Et c'est pour ça que, comme on les rencontre régulièrement aussi, et elles suivent de très près notre activité, ça nous permet de les alerter et de leur dire, attention, là, il se passe quelque chose, est-ce qu'il y a une réponse, où est-ce qu'il faut aller la chercher, etc.
Et alors, faut-il des compétences particulières pour accueillir les gens, si ce n'est effectivement une capacité d'écoute ? Mais les gens qui font une permanence n'ont pas de qualification particulière ?
Voilà, c'est pour ça qu'on n'appelle pas une permanence, nous, puisque nous ne sommes pas des professionnels, mais une présence. Et en fait, nos histoires personnelles font que nous avons été amenés, par exemple, c'est mon cas, à faire des métiers de l'écoute, du conseil. Mais on a présenté un projet et demandé un financement pour faire former les bénévoles, justement, à l'écoute, à la communication bienveillante et à la connaissance aussi bien des cycles de la violence que d'un certain nombre de notions de droit pour pouvoir commencer à répondre.
Donc là, vous seriez vraiment en soutien des professionnels du
secteur.
Tout
à fait, tout à fait. Et avec la complicité des professionnels qui sont prêtes à nous faire un transfert de compétences dans le cadre de cette formation. Donc nous l'avons fait dans le cadre de l'espace social, cette demande de formation. Nous sommes en attente de la réponse sur les financements, mais si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. En réalité, nous cherchons à monter en capacité d'écoute, même si je crois que les personnes qui sont actuellement bénévoles ont déjà une grosse capacité d'écoute.
Et alors, combien de personnes dans votre collectif sont-elles impliquées dans cette capacité d'écoute, justement ?
4. En ce moment, 4 en dehors des professionnels.
Donc, 4 personnes qui disposent de temps libre et de l'envie d'aider son prochain, peut-être ?
Complètement. Absolument. Alors on est un peu plus de bénévoles, mais celles qui actuellement peuvent consacrer un peu de temps pour assurer la présence et le suivi entre la présence, parce qu'il y a des fois des coups de téléphone à donner, des mails à envoyer, des choses à organiser. Voilà, je dirais qu'on est actuellement 4 bénévoles très actives et une dizaine de bénévoles.
Et alors, faut pas que ça déborde sur la vie privée, hein, quand vous me dites, c'est quand même l'avantage des gens qui ont une formation. C'est qu'ils savent aussi faire la part des choses et ne pas se laisser entraîner dans des histoires, parce que ça peut être sordide, des histoires un petit peu chaudes.
Tout à fait.
J'espère que vous êtes blindés quand même, un petit peu.
Oui, tout à fait. Alors, il y en a qui, par leur métier, déjà étaient blindés. Mais quand je dis blindés, c'est pas blindé avec une carapace totale, c'est la capacité à mettre une distance, c'est-à-dire à avoir de l'empathie, être capable de comprendre une situation différente de la nôtre, sans pour autant entrer en sympathie ou en antipathie avec quelqu'un, c'est-à-dire à un moment donné pouvoir se remettre à sa place et donner les indications.
Alors c'est magnifique ça, vous auriez pas un petit truc, comment fait-on pour entrer en empathie, mais pas en antipathie ni en sympathie ?
En arrivant à écouter, sans référer à soi-même, sans aucun jugement en fait, et en essayant de se mettre à la place de la personne, sans se poser la question de si c'est bien ou pas bien. C'est tout simple. Ensuite, on peut ressortir et dire « ben voilà comment je vois ce que vous m'avez raconté ». Et la personne peut dire « ben c'est ça ou c'est pas tout à fait ça ». C'est pratiquer de l'écoute active, quoi.
Alors, vous m'avez dit que vous étiez 4 véritablement motivés pour offrir cette capacité, ce don d'écoute active.
Mm-hmm.
Vous seriez à la recherche d'autres personnes ?
Alors, bien entendu, parce que le mouvement date depuis 2009, ça fait donc 4 ans qu'il existe. Et c'est vraiment le fait de renforcer l'équipe avec d'autres personnes qui se préoccupent des problèmes liés au genre et particulièrement spécifiques à la femme. C'est le fait d'être un certain nombre qui va donner la forme de notre action pour les années à venir. Et vraiment, si on organise des événements et entre autres ce premier apéro femmes, c'est pour que les gens connaissent notre existence, aient envie de nous rejoindre et qu'ensemble on construise la suite de notre action.
Alors peut-être que RDWA, voire vos mails ne suffiront pas forcément à faire parvenir ce message. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour vous faire connaître et vos événements bien sûr ?
Oui, alors pour l'instant c'est les événements, le fait d'annoncer aussi bien chez vous que dans la presse notre présence régulière. L'accueil à l'espace social qui systématiquement parle de notre existence, tout comme les professionnels parlent de notre existence, qui peuvent fonctionner en alternative. Et le fait d'utiliser le réseau par les mails, hein, c'est-à-dire que toute l'information on la fait circuler de bouche à oreille et par des mails.
Alors maintenant, si on revenait un petit peu à ce premier apéro femmes, le mardi 18 juin 2013, la première question qui me vient à l'esprit, c'est donc les hommes seraient exclus.
Alors les hommes sont pas tout à fait exclus, je dirais loin de là, dans la mesure où ils se préoccupent de la situation des femmes et qu'ils sont prêts à les accompagner dans leur démarche. Donc il s'agit pas d'être féministe, mais il s'agit d'être attentif à la situation des femmes, à des questions qui peuvent se poser par moment et parfois des injustices qui existent. Et particulièrement cet apéro femmes, il s'avère qu'on va parler du corps, on va parler de la relation au corps et on va parler de la relation avec le médecin et souvent le gynécologue. Puisque nous aurons donc autour de la lecture d'un livre qui s'appelle « Le cœur des femmes » qui a été écrit par un médecin, Martin Winkler. Autour de cette lecture, on va avoir la présence d'une conseillère conjugale et familiale du centre de planification, de la médecin gynécologue du centre de planification qui seront présentes et qui participeront aux échanges. Le centre de planification est ouvert aux hommes comme aux femmes. Très souvent, ce sont des jeunes qui viennent. Nous, ce que nous espérons, c'est que ce ne seront pas seulement des jeunes de moins de 20 ans, mais aussi de toutes les générations, puisque les problèmes de la relation au corps, de la relation au couple, dans le couple, et de la relation au médecin se présentent tout au long de la vie. Donc, c'est vraiment ouvert à des hommes qui sont bienveillants.
Donc, qu'ils se sentent bienvenus quand même si c'est une réunion qui est marquée, qui est intitulée « Premier apéro aux femmes ».
Voilà.
Donc, dans cette journée, je vois que ça commence à 17h par des lectures de passage du livre de Martin Winkler, « Le cœur des femmes ».
Le cœur des femmes, C-H-O-E-U-R, c'est-à-dire le cœur des femmes. Autour du livre, oui, pourquoi 17h ? On pourrait se dire c'est un peu tôt pour l'apéro. L'apéro sera servi après cette première étape qui est en effet des interventions, des lectures de passage avec entre autres Françoise Vérillac qui est une artiste que nous apprécions beaucoup et qui a fait partie du collectif. Donc lecture de passage par Françoise Vérillac, par moi-même et par d'autres participantes et des échanges, des réactions des personnes qui seront présentes et des réactions et des interventions des professionnels du centre de planification.
C'est étrange, c'est un livre, Le cœur des femmes, apparemment écrit par un homme quand même.
Voilà, écrit par un homme et qui raconte l'histoire d'un médecin je le présenterai comme ça, un futur chirurgien qui est obligé dans le cadre de ses études de faire un stage dans un centre de planification en milieu hospitalier auprès d'un médecin généraliste qui assure les fonctions de gynécologue. Et ce médecin frais et moulu de l'université va progressivement changer son regard sur les patientes et sa relation avec les patientes. Et c'est vrai que la lecture de ce livre m'a moi-même énormément interpellée. J'ai découvert des notions sur la façon d'approcher le corps d'une femme dans le cadre d'un suivi médical que je ne connaissais pas, des façons de procéder qui sont différentes dans d'autres pays et peut-être des façons de procéder qu'on considère normales et qui finalement le sont peut-être pas tant que ça.
Par exemple ?
Par exemple, le fait de se déshabiller en arrivant chez un gynécologue et de s'asseoir sur la table d'auscultation sans qu'il y ait réellement bien eu une prise de contact et la posture déjà sur cette table de gynécologie, quoi, en elle-même est déjà quelque chose qui pourrait être évité dans beaucoup des cas. Donc rien que ça, moi, ça a été une découverte.
D'accord.
Voilà. Moi, je me suis régalée à la lecture de ce livre, à la première lecture, et je vais faire une deuxième lecture, bien entendu, avant le 18 juin, 17h, où je serai en capacité de lire des passages.
Ces lectures seront vraisemblablement suivies d'un débat,
si voilà. Échange entre les personnes qui sont présentes dans la salle et les professionnels du centre de planification.
Bon, alors ça vous occupera quand même facilement, apparemment...
Deux bonnes heures,
voire un peu plus. Un petit apéro dînatoire. Et puis après, vous-même, allez entonner quelques chansons.
Ah, moi-même et pas seulement moi-même. Donc moi, je vais fidèlement entonner des chansons que je compose moi-même. Et comme j'ai l'habitude de faire des chansons à chacune de nos manifestations, j'en ferai à nouveau. Et surtout, pour la première fois, Barbora Prechova, qui est plus connue pour le groupe Cantilame, pour les animations qu'elle fait auprès d'adultes et d'enfants sur la musique et le chant. Barbora Prechova va nous présenter pour la première fois ses propres compositions. Et alors là, c'est vraiment un événement que je suis heureuse et émue de pouvoir présenter.
Oui, parce que j'ai un petit peu honte lors de mon introduction. J'ai omis, je pense, de dire que vous étiez entre autres chanteuse.
Voilà. Alors, je suis auteure-compositrice et interprète. Je suis chanteuse, j'interprète des chansons des autres. Mais en l'occurrence, donc, j'interprète mes propres compositions. Et aussi, on l'a pas mis en avant, tout simplement le fait que je suis chanteuse, puisque je suis avant tout aujourd'hui venue présenter les collectives.
Oui, mais vos chansons parlent peut-être de thèmes qui pourraient intéresser, je ne sais pas, je vous pose la question, hein. Est-ce que vos chansons traitent de ces problématiques-là liées aux femmes et
alors, je pense que aussi bien mes propres chansons parlent d'histoires de vie, de petites séquences de vie, c'est comme des petits scénarii. Chaque chanson raconte une histoire, soit de femme, soit de sensibilité féminine, soit sur la rencontre et la quête entre l'homme et la femme. Donc, ça parle de relations. Et les chansons de Barbora Prechova, que j'ai eu la chance d'écouter en primeur, elles aussi sont comme intemporelles, c'est-à-dire elles concernent toute génération avec une sensibilité, elles parlent de la vie intérieure dans la relation.
Apparemment, cette Barbora Prechova bénéficierait d'une bonne réputation, enfin, d'après ce que vous voulez dire.
Ah, je pense, en tout cas, bien sûr, auprès de moi, mais je pense pas seulement, puisque elle anime des ateliers dans le cadre de l'espace social, dans le cadre de l'association L'Arbre à Son, des ateliers d'expression artistique, en fait. Et elle participe donc à un groupe qui s'appelle Cantilame, qui fait des chants traditionnels en polyphonie. Ils sont quatre actuellement. Dans Cantilame, nous avons Yannick Loyer, Richard Morin, Mache Laurier et Myriam, qui interviennent avec Barbora Prechova pour tous ces chants traditionnels.
Très bien, mais c'est Barbora Prechova en individuel qui interviendra en tant que chanteuse
dans ses propres compositions. D'accord. Alors de là à dire qu'on en profitera pour vous faire un duo, il y aura sûrement un petit bœuf, quoi. On pourra pas s'empêcher.
Et donc ça se terminera sur ce bœuf alors.
Ben, ça se terminera ou ça se continuera avec le bœuf. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant l'apéro, on pourra de toute façon continuer les échanges qui auront commencé pendant l'après-midi. Et voilà, vers 20h30, on vous fera les deux petits tours de chant et une petite rencontre musicienne.
Alors, on a oublié de préciser que cela se passait au centre de loisirs, au rez-de-jardin de la salle polyvalente.
Absolument.
Je rappelle un petit peu les heures. Vous pouvez arriver à 17h jusqu'à à peu près...
21h30.
Oui. Voilà, donc pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui sont sensibles...
À la situation des femmes et aux questions des femmes.
Très bien. Eh bien, Pascal Évieux, je vous remercie d'être passé pour promouvoir et votre association et cet événement. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Eh bien, je vous remercie aussi et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.